Bonjour, aujourd'hui celui qu'on surnommait la voix de l'Amérique, Frank Sinatra.
My name is Francis Albert Sinatra.
France Inter.
Il était 9h ce matin quand la nouvelle est tombée sur les téléscripteurs du monde entier. Frank Sinatra est mort. Et soudain, nous nous sommes mis à fredonner.
Swans of the night.
Na, 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 na.
What has a man? What has he got? If not himself, then he has not to see the world. La da da da. I did it my way.
Ans d'histoire. Plus de 5 ans après sa mort, tout le monde a encore en tête les chansons les plus célèbres de Frank Sinatra, les paroles de My Way, The Fly to the Moon ou The Strangers in the Night, et la voix qui avait fait tomber les plus belles femmes du monde, Ava Gardner, Marlene Dietrich, Liz Taylor, Lauren Bacall, Marilyn Monroe et même, dit-on, Grace Kelly. Les femmes semblaient avoir perdu l'art de s'évanouir, avait dit Roosevelt à Frank Sinatra. Je suis heureux que vous l'ayez remise au goût du jour. Pendant 60 ans, celui qu'on appelait The Voice a incarné une Amérique rêvée, celle qui avait permis à un petit Rital de New Jersey de devenir en quelques mois un des plus grands chanteurs de tous les temps. C'était en 1940, quand, dans l'orchestre de Tommy Dorsey, il interprétait une chanson dont le titre était à lui seul tout un programme, The World is in my arms, Le monde est dans mes bras. Un des tout premiers titres de Frank Sinatra.
Frank, how would you like to introduce the song for the first time on the air, boy?
Why, of course, Lyle, I'd be delighted.
It's a good thing I didn't ask him.
What's the new tune you want me to sing, Lyle?
Well, it's from the new musical show Hold On to Your Hat, starring Al Jolson. It's a swell ballad number called The World is in My Arms.
Was I a gypsy looking for a world to roam in? Now the world is in my arms. No more aimless searching for a place to feel at home in. For the world is in my arms. Mexican hills. Florida skies, tropical seas, here in your eyes. When I see you smile, I see the sunset of Geneva. What's that magic in your charm? When I hold you, I hold the world right here in my arms.
Éric Neuhoff, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un livre que vous venez de publier chez Fayard, l'histoire de Frank, vous ne cachez absolument rien des défauts bien connus de Sinatra, hein, son orgueil, sa brutalité, ses amitiés douteuses, et pourtant vous l'aimez bien. Vous écrivez « J'aime me dire que j'ai vécu à une époque où Frank Sinatra était de ce monde, j'aurai bientôt 50 ans et je n'écoute plus que lui ».
Oui, c'est vrai, je me suis aperçu que le jour de sa mort, là, tout à l'heure, quand on a réentendu l'annonce « Frank Sinatra est mort », j'avoue que ça m'a donné le frisson à nouveau, et ça m'a rendu très triste, je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être une affaire de nostalgie, et je me suis rendu compte qu'on vivrait plus jamais avec un Frank Sinatra vivant, et je me suis mis à ne plus écouter que ça depuis 5 ans. Oui.
C'est à cause des souvenirs aussi qui sont associés, souvenirs personnels, d'ailleurs votre livre est très personnel, qui sont associés à toutes les chansons de Sinatra, elles nous rappellent
ça me rappelait surtout mes parents, moi. Maintenant, c'est devenu, je crois qu'on est tous obligés à un moment donné de venir à Sinatra en vieillissant, qu'on s'aperçoit que c'est lui le meilleur. Hein. C'est quand on entend cette voix, il y a quelque chose d'unique et de miraculeux. Hein.
Et puis, elle est associée aussi, Éric Neuhoff, un peu à l'histoire d'une Amérique rêvée. Hein.
Ouais.
C'est peut-être pas l'Amérique réelle, c'est en tout cas certainement pas celle d'aujourd'hui. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont elle a pu permettre à cet homme, à ce garçon, à cet enfant, hein, qui est né à Hoboken, dans le New Jersey, à côté de New York, de devenir ce qu'il est. Il en rêvait, dites-vous, depuis l'âge de 11 ans. À 11 ans, il se dit, je serai le plus grand chanteur du monde.
Oui, oui. parce qu'il était très mauvais en classe et il avait décidé très vite de devenir chanteur et le meilleur tant qu'à faire, être Sinatra et personne d'autre. Et ça, c'est parce qu'ils écoutaient tous Bing Crosby, qui était le chanteur américain par excellence, et Dean Martin faisait la même chose. Et Bing Crosby était assez beau joueur parce qu'il s'est fait un peu dépasser par ses successeurs et il disait... Une voix comme celle de Sinatra, on n'en trouve qu'une dans une vie. Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur la mienne?
Alors, cela dit, il est très poussé aussi. Son père était boxeur. Sa mère, sage-femme, vous dites, en fait, ça voulait dire avorteuse.
Oui, sa mère, Dolly, était une bonne femme redoutable qui connaissait tous les gens qu'il fallait à Hoboken, les politiciens, qui savaient tirer les ficelles. Et il était fils unique, en plus. Donc, elle poussait énormément son fils à devenir le meilleur. Et ce qui est marrant, c'est qu'à sa naissance, les forceps lui avaient esquinté un tympan. Donc, il n'entendait pas très bien d'une oreille. Et en plus, il ne savait pas lire une note de musique. Ouais. Il a enregistré 3000 chansons, mais comme ça, uniquement à l'oreille.
En tout cas, il se fait remarquer au point d'entrer en 39 dans l'orchestre de Harry James, où il enregistre From the Bottom of My Heart, le premier enregistrement d'une chanson de Frank Sinatra. Écoutez, c'est une rareté.
Now in the language of swingland, Harry phrases a bit of musical rhythm. From the bottom of my heart, Frank Sinatra vocalizes. From the bottom of my heart, I love you. What more can I say? From the bottom of my heart, I need you. You're part of my day.
C'était From the Bottom of My Heart, le premier enregistrement de Sinatra, chanteur dans ce qu'on appelait un big band. C'était important à l'époque dans l'Amérique de la fin des années 30.
C'était très important. C'est pour ça d'ailleurs que Sinatra a changé un peu l'industrie musicale aux États-Unis. C'est que quand il a débuté, les vraies vedettes, c'était les chefs d'orchestre et pas du tout les chanteurs. Le chanteur était là comme un des musiciens. Et lui a démodé tout ça, et ce qui lui a causé d'ailleurs quelques problèmes ensuite avec... Tommy Dorsey.
Oui, parce que bon, il quitte ce premier band où on vient de l'entendre. Ensuite, il rentre chez Tommy Dorsey, qui était plus connu. Tommy Dorsey qui lui avait imposé un contrat. Léonin, il savait bien que Frank Sinatra avait de l'avenir. Et je crois qu'il lui a imposé un contrat qui était absolument incroyable.
Ah oui, Sinatra avait signé avec lui un contrat qui octroyait à Dorsey, je crois, 50% de tous les gains de Sinatra jusqu'à la fin de ses jours. Et quand Sinatra est devenu célèbre, il a voulu voler de ses propres ailes et... ça s'est mal passé avec Tommy Dorsey. Je crois que là, comme on dit, les amis italiens de Sinatra ont fait à Dorsey une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser.
C'est-à-dire,
on imagine assez bien.
En tout cas, il connaît d'emblée, pendant la guerre, il n'y a que pas y participer à cause de ce tympan crevé, je crois. Il connaît d'emblée un succès considérable. Il est l'idole de l'Amérique, un phénomène qui surprend même les Français dès la fin des années 40. La revue de presse, Stéphanie Duncan.
Oui, juste après la Seconde Guerre mondiale, les Français découvrent donc Frank Sinatra, le chanteur, mais aussi, ce qui est nouveau de ce côté-ci de l'Atlantique, le phénomène qu'il représente. 40 millions de fillettes se meurent d'amour pour Frank Sinatra, titre François en 1946, dans une série consacrée aux nouvelles vedettes de Hollywood. Le sinatrisme est un cas d'hystérie collective qui décourage les psychiatres. Alors, le correspondant de François à New York, en effet, n'en revient pas. Cet après-midi, Times Square était en état de siège. 200 policemen tentaient d'endiguer une marée humaine de fillettes en cotillons courts et en chaussettes, les fameux Bobby Soxers, littéralement les porteurs de socket, en fait, bon, les millinettes, quoi, qui, poussant et hurlant, avait fini par rompre les barrages. C'est comme ça à chaque fois que Frank Sinatra chante au Paramount. À quoi ressemble-t-il donc ce Frank Sinatra ? Voilà ce que je vis, raconte le journaliste. Sur la scène, derrière un microphone, un frêle jeune homme, cheveux bruns rebelles, pommettes saillantes, yeux bleus, petite cravate papillon, veston de tweed. Il chantait d'une voix douce et assez prenante, un peu mieux que Tino Rossi, mais dans le même genre. Soudain, comme il faisait un certain geste de la main, comme il passait d'une note à une autre, le tumulte se déchaîna. Ça, c'est son glissando, elle n'y résiste pas. Alors, le phénomène se dégonfle pas en 1947. Frank Sinatra a déclenché une crise d'hystérie en Amérique, constate le journal Libération. Il reçoit autant de lettres de menaces que de lettres d'amour. Il est en passe de devenir l'un des hommes les plus riches d'Amérique, mais il ne peut pas jouir de sa fortune. Il lui est pratiquement impossible de sortir du studio où il chante. Un autre journal affirme même que la popularité de Frank Sinatra est telle qu'on n'hésita pas un jour à l'envoyer chanter dans une usine dont les ouvriers s'étaient mis en grève. Son charme opéra, le travail fut repris. Toujours en 1947, le journal L'Ordre, en France, intrigué aussi par cette nouvelle idolâtrie moderne, affirme que dernièrement, à une vente de charité, on se disputa une paire de lacets qu'il avait portés. Finalement, une admiratrice emporta la relique pour $100. À cette époque, Frank Sinatra est déjà connu aussi pour ses coups de gueule musclés, notamment à l'égard des journalistes. On lit par exemple en avril 47, le célèbre chanteur de charme américain Frank Sinatra est passé en jugement pour s'être bagarré dans une boîte de nuit avec le critique new-yorkais Lee Mortimer. Frankie Boy, c'est son surnom, a été relâché moyennant une caution de $500. Grave question, les Bobby Soxers se consoleront-elles de cette infamie?
C'est extraordinaire cette idolâtrie pour un chanteur. On y est habitué aujourd'hui, mais à l'époque, à la fin des années 40, c'était tout à fait nouveau, Eric.
Oui, ça a été le premier à vivre ça. Et puis, en plus, il était précurseur dans un tas de domaines, parce que j'ai découvert qu'au début, il avait beaucoup de succès, mais c'était pas encore l'hystérie totale. Et le type qui s'occupait de ses relations publiques avait payé des filles pour crier et s'évanouir dans les salles où il passait.
Cela dit, ça c'est des journaux de la fin des années 40, on en parle même dans le reste du monde. Hein. En 40, totalement inconnu, il devient une célébrité mondiale. Et avec, on l'a entendu aussi, de mauvais rapports avec les journalistes. Hein. Le paradis pour Sinatra, disait Humphrey Bogart, c'est un endroit où il n'y a que des femmes et pas un journaliste.
Il a toujours détesté la presse. Mais là aussi, il était assez innovateur dans son genre, parce que aujourd'hui, on voit bien que toutes les stars veulent que la presse soit uniquement de la publicité qui leur cire les pompes. Ouais. Et lui voulait que ce soit ça. Donc, dès qu'il y avait la moindre critique, il était foudrage. Et le Lee Mortimer dont vous parliez tout à l'heure, il est quand même allé pisser sur sa tombe, Sinatra.
Mais il y en a qui le menacent même, dont il menace d'aller leur casser les tibias avec une batte de baseball.
Ça, les journalistes hommes, ils les menaçaient de ça, de leur casser les jambes. Et les femmes étaient...
C'est encore pire. Alors
c'était toujours des prostituées à $2. Ouais. Enfin, il s'est excusé deux fois. La première, il a dit pardon, ce sont pas des prostituées à $2, mais des putes à $1.50. Et la seconde fois, il s'est excusé, mais auprès des prostituées pour les avoir comparées aux journalistes.
Alors, autre ennemi de Frank Sinatra dès le début, c'est le FBI, hein, de Edgar Hoover. On le soupçonne à l'époque parce que c'est un homme de gauche.
Oui, il est très libéral.
On le soupçonne d'être très proche des communistes.
Ouais.
Et on l'enquête sur lui, le FBI enquête sur lui.
Ah, il a toujours été surveillé pour ses histoires politiques et ensuite pour ses liens supposés ou réels avec la mafia. Mais de ce côté-là, on n'a jamais trouvé la moindre condamnation à lui faire.
En tout cas, ça n'empêche pas d'être le plus populaire des chanteurs américains et même un acteur reconnu lorsqu'en 1953, il obtient, je crois, un Oscar pour son rôle dans un film, From Here to Eternity, dont le titre français était « Tant qu'il y aura des hommes », Sinatra y joue le rôle d'Angelo Maggio, un soldat bagarreur et grand buveur de whisky, comme l'était Sinatra.
What you doing in uniform? I think of joining the army.
If you keep on drinking, you'll be as much use as a melted candle.
You're absolutely right. Bottles out of there, whiskey. Large whiskey. Excuse me. Hey, buddy. Hey,
crew,
I got a good idea. Let's go swimming. Let's go swimming with a movie star. That's what I'm going to do. Go swimming with a movie star.
Where's Angelo?
20 feet tall. I'm going swimming with a movie star.
You vowed your love from here to eternity. A love so true, it never would die.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Frank Sinatra.
Et c'était la chanson du film From Here to Eternity, tant qu'il y aura des hommes avec Frank Sinatra dans un rôle dramatique. Il avait déjà fait beaucoup de films, je crois, Eric Neuhoff, depuis 41, c'était surtout des comédies musicales. Là, c'est un
vrai film et il s'est bagarré comme un beau diable pour obtenir le rôle, parce que j'ai découvert qu'à la fin des années 40, Sinatra était complètement au creux de la vague. Il n'avait plus d'émission de radio, plus d'émission de télévision, aucune compagnie de disques ne voulait l'enregistrer, les producteurs refusaient de le faire tourner, et c'est l'époque où il était marié à Ava Gardner, qui était la plus grande vedette de Hollywood, qui a imposé à Harry Cohn, le patron de la Columbia, son mari Frank Sinatra, pour avoir le rôle de Maggio dans Tant qu'il y aura des hommes. Enfin, il y a une autre version aussi qui est reprise dans Le Parrain, où on raconte que ce sont des Italiens qui sont intervenus auprès des studios hollywoodiens
pour faire une offre, on ne peut pas refuser.
Voilà, l'histoire, vous savez, de la tête du cheval ensanglantée dans les draps du producteur, ça aurait été inspiré de ça.
Vous avez cité Ava Gardner qui a joué un rôle, hein, je crois, aussi,
énorme,
dans l'introduction de ce rôle. Alors, c'est la seule femme, parce qu'il en a eu beaucoup, dont il était vraiment amoureux. Il était marié, il faut le rappeler, très jeune, avant même de devenir célèbre, et d'ailleurs, il a eu plusieurs enfants, dont Nancy Sinatra, mais Ava Gardner, alors là, pour elle, il a failli se suicider.
Oui, pour de bon, il a fait une fausse et deux vraies tentatives de suicide. Ça a été la femme de sa vie. Il faut dire que, pour une fois, il avait trouvé quelqu'un qui avait du répondant en face de lui, hein, parce que c'était une espèce de Frank Sinatra au féminin. Elle jurait comme un charretier, elle buvait, elle avait un humour fou, une personnalité hors du commun, et c'est la seule qui lui ait tenu tête. Hein, c'était la femme à qui on avait dit... combien de maris avez-vous eu et qui avait répondu, vous voulez dire en comptant les miens?
Oui, parce que vous écrivez, ces deux-là, en parlant de Ava Gardner et de Sinatra, étaient faits pour ne pas se rater. Alors elle ne l'a pas raté, hein, parce que vraiment, elle l'a rendu malheureux. En revanche, il en a eu, après elle, des quantités d'autres, hein, Lorraine Bacall, Liz Taylor, Marlène Dietrich, peut-être même Grace Kelly, on ne sait
Kim
pas
Novak,
très bien.
Les deux sœurs Gabor...
Bah, arrêtez, parce que dites-nous plutôt qui n'a pas eu, parce que c'était tout le gratin d'Hollywood. Bah,
vous savez, quand il est arrivé à la MGM au début, il a eu un contrat de 7 ans, comme ça se pratiquait à l'époque, et il a affiché sur la porte de sa loge une liste d'actrices, et on voyait les noms barrés au fur et à mesure, ça voulait dire qu'il avait couché avec.
Oui, puis il couchait pas mal, je crois, parce que Marilyn disait de lui qu'Oli, c'était une Mercedes-Benz.
Bah oui, parce qu'il avait la réputation d'être très bien pourvu par la nature, et on le surnommait à Hollywood The Dick.
Ah bon. Alors, Marilyn, il l'avait partagé, entre guillemets, avec John Kennedy. John Kennedy qui avait espacé ses relations avec Sinatra dès qu'il a été élu président, parce qu'il avait des amitiés douteuses. Hein. Alors, vous ne le cachez pas, mais quelle est la réalité de la chose? C'est vrai qu'il était copain avec Giancana, je crois qu'il était le patron de la pègre de Chicago, copain avec le Caliciano, mais c'était copain-copain, ou est-ce que lui-même, au fond, avait des activités mafieuses?
Le problème, c'est qu'à l'époque, tous les clubs où pouvaient se produire les chanteurs aux États-Unis appartenaient à la mafia, donc forcément, il y avait des liens entre les artistes et puis les propriétaires de ces endroits-là. Et j'imagine que quand quelqu'un devenait célèbre, rapportait de l'argent, il y avait un échange de bons procédés. Et en plus, Sinatra, lui, qui était un petit gringalet assez teigneux, devait se vanter de choses qu'il n'avait pas faites. Et il devait trouver ça assez bluffant d'être photographié, soupçonné, d'être un vrai mafioso. Mais eux s'en méfiaient un petit peu, parce que comme c'était un type du showbiz, il parlait trop. Mais cela dit, il a quand même eu des histoires un peu douteuses. À propos de Marilyn, il y a eu un fameux week-end dans le Nevada, là, dans l'hôtel qui appartenait à Sinatra, le Lake Tahoe, une semaine avant la mort de Marilyn, où il s'est passé quelque chose d'horrible. Même la presse américaine a du mal à en parler. Apparemment, il y avait Sam Giancana, il y avait des hommes politiques, ils l'ont drogué, ils l'ont partousé, elle a fait une tentative de suicide, ils l'ont emmené à l'hôpital, ils l'ont sauvé. La semaine suivante, elle s'est suicidée, elle a réussi son suicide à Los Angeles, et ça a dû être tellement crapoteux ce qui s'est passé à ce moment-là que pour l'enterrement de Marilyn, son ancien mari Joe DiMaggio a interdit à Sinatra et à ses amis de mettre les pieds au cimetière. Ouais.
En tout cas, ça n'a pas empêché Sinatra de poursuivre une carrière internationale, de vendre des millions de disques, notamment en France, où il était venu en 1989 à Paris, pour y être reçu par le maire de l'époque, Jacques Chirac, qui pour l'occasion avait révisé son anglais.
Cher Franck, vous êtes un artiste exceptionnel, un homme qui fait rêver, un homme généreux, qui est admiré, qui est aimé, à juste titre, dans le monde entier. Let me tell you, in my poor English, but you will excuse me, that for the French people, from here to eternity, you will never be a stranger, even in the night. Mr. Moore, Madame Chirac, friends, ladies and gentlemen, I am deeply flattered and delighted.
Je suis profondément flatté et ravi d'être ici avec vous et d'accepter ce grand hommage de la ville de Paris.
I've had a love affair with this city.
Entre Paris et moi, c'est une longue histoire d'amour. Que dire de plus, sinon que je vous aime tous énormément et que je vous souhaite tout le bonheur possible.
Thank you.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? before the night was through. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Éric Neuhoff, qu'est-ce qui fait qu'on aime une chanson Sinatra? Il faut bien le dire, c'est un peu guimauve, c'est un peu ringard, c'est même un peu tard. Hein. Strangers in the Night, c'est quand même pas du Rimbaud, et pourtant on adore ça.
Bah, à cause de sa voix, je crois. Hein. Dès qu'il s'empare d'une chanson, sa voix magnifie tout ça. Hein.
Mais The Voice, on l'appelait The Voice, la voix.
Mais Strangers in the Night, c'est une chanson qu'il détestait d'ailleurs. Il disait, si vous aimez cette chanson, c'est que vous devez raffoler du yaourt à l'ananas. Mais nous aussi, on en a un peu assez, on l'a tellement entendu. Mais si on oublie et qu'on l'écoute comme ça à froid, elle est pas si mal que ça, cette chanson. Mais
c'est une des chansons, parce que bon, Anne Kobilac qui est choisie avec l'embarras du choix, hein, on aurait pu choisir, on l'entendra d'ailleurs, My Way, Fly to the Moon, hein. Ça, il paraît qu'on l'a même entendu sur la Lune, Fly to the Moon.
Oui, oui, là, en 69, quand les astronautes américains posé le pied sur la Lune, ils ont demandé à la base de la NASA de leur envoyer Fly Me to the Moon. C'est quand même un truc qui n'arrive qu'à un type comme Sinatra, ça, c'est merveilleux.
Alors bon, il y en a eu beaucoup d'autres. C'est un homme, bon, il vieillit un peu mal, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. D'abord, il devient, après avoir été soutenu les démocrates, était très à gauche, hein, soutenir la lutte pour l'intégration des Noirs, participer à des réunions franquistes au début des années 50, et il devient dans les années 70... Pour Reagan, il fait sa campagne comme gouverneur de Californie, il devient très conservateur.
Oui, ouais, il était pour la guerre du Vietnam, et il était pour Reagan, Nixon, etc. Mais ça, c'est ce qui arrive en vieillissant, et c'était son côté patriote, ça. Il était devenu très réac. Et puis, je crois qu'il aimait bien se faire détester, hein, par certains côtés. Et c'était, ça rendait folle de rage sa fille Nancy, ça, d'ailleurs, avec qui il se fâchait pour des discussions politiques sans arrêt. Mais c'est vrai que quand on le voyait à la fin arriver sur scène un peu bouffi avec son...
Ah, il continuait de boire. Puis avec ses copains, là, vous en parlez beaucoup, ces deux grands copains, hein, Dean Martin et Sammy Davis Jr. Ouais.
Mais Sammy Davis, par exemple, c'est là qu'on voit la générosité, puis le côté homme de gauche, entre guillemets, de Sinatra. À Las Vegas, c'est Sinatra qui a obtenu que Sammy Davis soit payé au même tarif que les artistes blancs, ce qui ne se produisait jamais à ce moment-là. C'était quand même une époque où Harry Belafonte s'était baigné dans la piscine d'un hôtel. Les clients ont demandé qu'on change l'eau de la piscine.
Ah oui.
Ouais, c'est quand même ça. Alors, Sinatra a toujours été très généreux avec ses amis. Ça.
Ah, il a chanté finalement très longtemps, parce qu'il a fait plusieurs fois ses adieux à la scène, puis il revenait, il n'arrivait pas.
Oui, c'était son côté Maurice Chevalier.
Il fabriquait, dites-vous, de la nostalgie comme il respirait.
Ouais, c'est vrai, parce que je crois qu'il arrivait à rappeler à tout le monde des moments magiques, tristes ou malheureux, que les femmes se disaient « c'est à moi qu'il parle » et que pour les hommes, on se disait bah, « c'est de moi qu'il parle, Sinatra ». Parce qu'il y avait les chansons d'amour, de séduction, et puis aussi ce que lui appelait les « saloon songs », qui étaient les chansons sur la solitude, l'alcool, les bars vides la nuit, et le type qui attend un coup de fil qui ne vient pas. Et les deux se mélangeaient très harmonieusement.
Vous écrivez aussi, quand il est mort à 82 ans. Le 14
ça conserve mai, donc le bourbon.
Vous dites qu'il n'y a pas eu d'autopsie, il aurait fallu disséquer tout le siècle.
Oui, parce qu'il a quand même duré au sommet pendant pratiquement 60 ans. Et en plus, ce qui est très rare, c'est un artiste qui réussit dans la chanson, dans le cinéma, dans, dans la télévision, la radio, et qui garde une voix à peu près intacte jusqu'à la fin, jusqu'à 80 ans.
Et en laissant derrière lui des quantités de chansons qui sont autant de testaments, dites-vous, Eric Neuhoff. Alors on se quitte justement avec un des plus célèbres testaments de Frank Sinatra, My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Je rappelle que mon invité, Eric Neuhoff, est l'auteur d'un livre qu'il faut lire, une très bonne biographie, très personnelle de Sinatra, Histoire de Frank, publié chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait du film « Tant qu'il y aura des hommes » de Fred Zinnemann, édité chez Columbia Classics. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Xavier Atto, documentation et archivina Virginie Bloch-Lenné, Claire Tessert et Véronique Gélivet, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, at my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. I did it my way. For what is a man?
C'était 2000 ans d'histoire, Frank Sinatra, et cette émission avait déjà été diffusée le 26 mai 2003. Demain, dans 2000 ans d'histoire, La République. À 16h, rendez-vous musical, Carrefour de l'Odéon avec Frédéric L'Odéon. À 15h, découvrez l'Europe avec Mathieu Vidard. Et d'ici quelques minutes, vous aurez le plaisir de retrouver Laurent Cheval et son émission ouverte tout l'été. Aujourd'hui, les coulisses du déménagement.